soit numérique, et tais-toi.
Le numérique nous rapproche de cette réalité.
Allez, je vais t'apprendre deux, trois petits trucs.
Le numérique matérialise la réalité qui nous entoure.
J'ai rien compris.
Non, ou alors c'est moi.
Non, moi non plus, j'ai rien compris.
Tais-toi, va, Fada.
Le numérique, c'est avant tout du traitement de symboles.
Tais-toi.
Qu'est-ce que tu racontes? Tu connais rien, toi.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de Sois numérique et tais-toi, l'émission qui, chaque semaine, aborde en 10 minutes une des multiples questions sur les technologies numériques et informatiques qui s'occupent de nos voitures, de nos informations, de nos impôts et de nos courses. Car aujourd'hui, pour être considéré comme intelligent, il faut être connecté, même si l'on n'est pas d'accord. Nous poursuivons cette semaine nos chroniques sur le marché des données, en nous intéressant à nos données personnelles et à la manière dont nous les créons et comment elles sont collectées par les acteurs du numérique. Nous allons voir que les données qui constituent notre identité numérique ne sont pas simplement celles que l'on croit et qu'elles sont bien plus nombreuses que les données que l'on fournit plus ou moins consciemment. Alors, de quoi parle-t-on ? Les données personnelles sont souvent perçues de manière simpliste dans notre esprit. Il s'agit de mon nom, de ma date de naissance, éventuellement mon emploi actuel ou passé. En réalité, notre identité numérique va bien au-delà de ces éléments que l'on peut qualifier de données déclarées. En effet, vous êtes amené à fournir ces informations pour créer un compte en ligne. Mais il est souvent facile de choisir un faux nom et de s'appeler Charles de Gaulle ou Super Dresseur Pokémon. Mais il existe évidemment des données observées. Celles qui résultent de l'activité de votre profil. La première d'entre elles est la connexion. Quand est-ce que vous vous connectez, vous déconnectez? Quelles actions vous effectuez? Quels achats? Quelles pages consultez? Quels éléments vous téléchargez? Au-delà de la navigation en ligne, on peut aussi penser à la vidéosurveillance assistée de logiciels de reconnaissance faciale qui permet de vous identifier physiquement. Mais beaucoup d'entre nous savent que ces données sont collectées, même si on l'oublie un peu au quotidien. Il existe ensuite des données inférées. Et c'est là que nous perdons le contrôle. En effet, les données déclarées et observées, dont nous avons parlé jusqu'à maintenant, servent de base à des calculs qui permettent de déduire d'autres informations. Prenons un exemple simple. Vous consultez des informations sur la grippe dans votre moteur de recherche. Vous avez récemment acheté des produits dans une pharmacie. Nous sommes au mois de janvier. Vous vous connectez à des heures habituelles de travail. Une inférence peut-être que vous êtes en congé maladie chez vous. Bravo Sherlock, mais l'analyse de données peut permettre aussi d'identifier une personne qui est en théorie anonyme. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, il suffit de quelques données clés sur un individu anonyme pour en déduire son identité réelle. Et pof, votre identité subtilement cachée derrière Super Dresseur Pokémon est levée. Mais de même que nous n'avons aucun contrôle sur ces inférences, celles-ci peuvent être erronées, pour plein de raisons. Vous êtes curieux sur la grippe, vous achetez autre chose en pharmacie, ou tout simplement vous prêtez votre ordinateur ou smartphone à quelqu'un. Bref, il existe une dernière catégorie de données problématiques, les données cachées. La plus connue est l'adresse IP. Comme je l'avais expliqué dans ma chronique sur le navigateur Tor, l'adresse IP est un identifiant de connexion au réseau Internet attribué à chaque appareil connecté en fonction de son emplacement sur le réseau. Cet identifiant est envoyé systématiquement et fournit une donnée de localisation dès que l'on navigue sur Internet, à moins d'utiliser le navigateur Tor. Une donnée cachée moins connue est l'adresse MAC, M-A-C, pour Media Access Control. Cette adresse est également un identifiant, mais il est unique pour chaque carte réseau d'ordinateur ou smartphone. Autrement dit, contrairement à l'adresse IP qui peut être partagée entre plusieurs appareils, une adresse MAC permet d'identifier de manière unique un appareil connecté. C'est pour cela qu'elle est aussi appelée adresse physique. Lorsque vous vous connectez à un réseau, votre appareil envoie cette adresse. Toutes les personnes sur le réseau voient ainsi les autres identifiants des appareils. Imaginons que vous cherchez à étudier la fréquentation d'un café avec Wi-Fi. Il vous suffit de vous connecter en permanence sur ce réseau en listant toutes les adresses MAC qui se connectent. Et si par observation vous arrivez à voir qui possède le smartphone correspondant à l'adresse, vous pouvez retrouver son historique de fréquentation du café et savoir si la personne revient plus tard, à quel moment, pendant combien de temps, et même avec quelles autres personnes. Mais réfléchissons un instant. Est-ce que c'est grave tout ça? Il faut répondre à cette question à partir de deux éléments. Premièrement, nous savons très peu quelles données sont collectées sur nous. À quel moment? À quel endroit? Par qui? Deuxièmement, la multiplication des données collectées, leur diffusion et leur vente sur le marché, permet de faire de nombreuses inférences ou déductions qui peuvent être erronées. Autrement dit, nous sommes jugés par des acteurs privés sur des faits et des critères que nous ignorons et leur jugement peut être faux. Pour l'instant, tout va bien, puisque, dans la plupart des cas, nous n'avons pas conscience des conséquences que cela implique pour nous. Mais intéressons-nous à la valeur de nos données de profil. Savez-vous par exemple qu'un des profils qui a le plus de valeur marchande est celui de la femme enceinte? Eh oui, au-delà du cliché des hormones qui constitue la base d'un humour récurrent, les femmes enceintes sont des personnes en état de faiblesse psychologique car elles traversent une période importante pleine de certitudes. Dans ce contexte, c'est une personne très sensible aux achats compulsifs et donc une potentielle vache à lait, au sens économique du terme bien sûr. Là, vous allez me dire, oui, mais la plupart des gens ne donnent pas d'informations en ligne sur leur grossesse. Alors, premièrement, c'est faux. Mais surtout, les données inférées permettent de savoir que vous êtes enceinte sans que vous ne le disiez. Je vais vous raconter une histoire rapportée en 2012 dans un article de New York Times intitulé « How companies learn your secrets », c'est-à-dire « Comment les entreprises apprennent vos secrets ». C'est un homme habitant aux États-Unis qui vient se plaindre dans un supermarché car il avait reçu des courriers avec des coupons de réduction pour des landaus et des vêtements pour bébé adressés à sa fille. Il se plaint en accusant le supermarché de vouloir inciter sa fille à tomber enceinte. Quelques jours plus tard, la même personne recontacte le supermarché par téléphone. Il présente ses excuses au gérant. En effet, à partir de la carte de fidélité de sa fille, le supermarché avait analysé les données de consommation et en avait déduit qu'elle était enceinte. Et cette inférence s'est avérée vraie, alors même que le propre père de la fille l'ignorait. Mais une inférence vraie peut également devenir fausse et torturer des individus qui ignoraient l'usage de leurs données. Toujours sur le cas des femmes enceintes, les inférences conduisent à vous suivre en fonction de l'évolution de l'âge du bébé à partir de la date de grossesse ou celle de naissance. C'est ce qui est arrivé à Gillian Brockel, une journaliste du Washington Post qui a vécu le décès de son nouveau-né. Or, ce type de données n'a aucun intérêt commercial et elle n'a donc pas été enregistrée. La femme a donc été torturée en ligne par des publicités pour l'allaitement, les vêtements pour enfants, les couches bébés, etc. Elle a tellement souffert de cette situation qu'elle a publié une lettre ouverte sur Twitter pour implorer les géants du numérique de ne plus lui adresser ce type de publicité. Mais alors, et nous dans tout ça? Eh bien, il n'est pas facile de ne pas être ciblé. Mais vous avez compris que certains comportements vous tirent une balle dans le pied. Ainsi, dans sa lettre ouverte, Gillian Brockel fait son mea culpa en expliquant « C'est de ma faute, je n'ai pas pu résister à ces mots-clés sur Instagram. Hashtag 30-week-pregnant, hashtag baby-bump. » Bref, si vous êtes enceinte, soyez numériquement discrète. Mais je tiens également à partager une précaution de base pour les utilisateurs de smartphones Android, ces appareils étant, il faut le dire, les meilleurs mouchards de la Terre. En effet, Google attribue à chacun un identifiant publicitaire unique, qui est envoyé à tous les interlocuteurs de votre navigation en ligne pour vous identifier et vous cibler. Or, vous pouvez désactiver cette option. Alors, vous ouvrez le menu de votre application Paramètres. Ensuite, vous allez dans la rubrique Google, ou compte Google parfois. Dans cette rubrique, vous choisissez la sous-rubrique Annonces au pluriel. Et là, tadaaa! Vous accédez à votre identifiant publicitaire et vous avez une option qui s'appelle « Désactiver la personnalisation des annonces ». Et vous cliquez dessus. C'est un petit clic pour le smartphone, un grand pas pour la vie privée.